Chapitre 14. Le docteur Willoughby. Hercule Poirot sortit du taxi, régla la course en l'arrondissant d'un pourboire, vérifia que l'adresse à laquelle il venait d'arriver correspondait bien à celle qu'il avait notée dans son calepin, tira soigneusement de sa poche une lettre libellée à l'intention du docteur Willoughby, gravit les marches du perron et appuya sur la sonnette. Un domestique ouvrit la porte. Quand Poirot eut annoncé son nom, on lui répondit que le docteur Willoughby l'attendait. Le domestique le fit entrer dans une pièce confortable, dont un mur disparaissait entièrement sous des rayonnages de livres. Deux fauteuils étaient installés devant la cheminée, et sur un plateau trônaient des verres et deux carafes. Le docteur Willoughby se leva pour accueillir son visiteur. Front haut et cheveux bruns, c'était un homme dans la bonne cinquantaine, mince, élancé, aux yeux gris extrêmement pénétrants. Il échangea une poignée de main avec le détective, puis invita ce dernier à s'asseoir. Poirot sortit la lettre de sa poche. « Ah oui !» Le médecin la prit, ouvrit l'enveloppe, lut la lettre, après quoi il la posa à côté de lui et regarda Poirot avec intérêt. « J'ai déjà reçu un appel du superintendant Garraway, lui signala-t-il, ainsi que, je peux l'ajouter, d'un ami du ministère de l'Intérieur qui m'a prié lui aussi de faire tout mon possible pour vous aider dans le cadre de l'affaire qui vous intéresse. C'est un service assez considérable que je vous demande là, j'en ai conscience, déclara Poirot, mais cette affaire m'importe pour des raisons précises. Vous importe au bout d'un si grand nombre d'années? Oui. Bien entendu, s'il se trouvait que vous ayez perdu tout souvenir des événements en question, je le comprendrais fort bien. Je ne crois pas que ce soit le cas. Je m'intéresse, comme vous le savez peut-être, à des secteurs particuliers de ma profession, et ce depuis bien des années. Votre père était, je le sais, un spécialiste tout à fait éminent dans ce domaine. En effet, ce fut une des grandes passions de sa vie. Il avait formulé quantité de théories dont certaines se révélèrent brillantes. C'est, si j'ai bien compris, à un cas psychiatrique que vous vous intéressez. Le cas d'une femme qui se nommait Dorothea Preston Gray. En effet, j'étais tout jeune homme à l'époque. Je m'intéressais déjà aux recherches de mon père, même si ses hypothèses et les miennes ne concordaient pas toujours. J'ignore à quel point de vue précis vous vous intéressez à Dorothea Preston Gray, comme elle s'appelait à l'époque, ou Madame Jarrow, du nom qu'elle porta par la suite. Elle avait une sœur jumelle, précisa Poirot. En effet, les jumeaux constituaient alors, je le précise, le domaine d'études spécifiques de mon père. Il y avait un projet en cours à l'époque qui visait à suivre le parcours de vrais jumeaux triés sur le volet, les uns élevés conjointement dans le même milieu, les autres amenés, du fait de divers aléas de l'existence, à grandir dans des milieux totalement distincts. Pour voir dans quelle mesure ils demeuraient identiques, à quel point leurs parcours respectifs étaient similaires. Deux sœurs, par exemple, ou deux frères n'ayant pratiquement pas vécu ensemble, alors que par extraordinaire, les mêmes choses semblaient leur arriver au même moment. Tout cela était, en fait, tout cela est infiniment passionnant. Mais ce n'est pas à cet aspect-là que vous vous intéressez, si j'ai bien compris. Non. Confirma Poirot, c'est, je crois, à une affaire, ou plutôt à l'un des aspects d'une affaire concernant un accident dont un enfant fut victime. En effet, ce drame se produisit dans le Surrey, me semble-t-il, une région très agréable, pas très loin de Camberley, je crois. Madame Jarrow était une toute jeune veuve à l'époque avec deux enfants en bas âge. Son mari venait de mourir dans un accident, en conséquence de quoi elle était... « Mentalement déséquilibré ?» hasarda Poirot. « Non, on ne la considérait pas réellement comme telle. Elle avait certes été profondément affectée par le décès de son mari et ne parvenait pas à surmonter son deuil aussi bien que son médecin traitant l'aurait, semble-t-il, souhaité. Son chagrin déclenchait apparemment chez elle des réactions assez étranges. En tout état de cause, mon père fut appelé en consultation et prié de donner son avis. Il jugea l'état de la patiente préoccupant et estima souhaitable un placement temporaire de Madame Jarrow dans une maison de repos où elle pourrait faire l'objet de soins appropriés. Ce qui fut fait à la satisfaction générale. Et après quelques mois, la patiente put rentrer chez elle et reprendre une vie en apparence normale, tout au moins jusqu'à ce fatal incident dont un enfant fut la victime. D'après le récit qu'en fit Madame Jarrow, ce fut la fillette, plus âgée de 4 ou 5 ans que son petit frère, qui agressa le bambin en le frappant avec une pelle ou une binette miniature. Le petit tomba dans le bassin du jardin et se noya. Ce genre de drame n'est hélas pas rare entre enfants. Il arrive que certains soient précipités à l'eau dans leur poussette par un aîné jaloux qui se dit que maman sera bien plus tranquille une fois qu'Edward, ou Donald, peu importe son nom, ne sera plus là. La jalousie, pourtant, semblait inexistante, en l'occurrence. La fillette avait bien pris la naissance de son frère. Madame Jarrow, en revanche, n'avait pas désiré ce deuxième enfant. Elle avait consulté 2 médecins dans l'intention d'avorter, sans parvenir à en trouver un qui accepte de pratiquer ce qui était alors une intervention illégale. L'un des domestiques déclara, de même qu'un jeune télégraphiste venu délivrer une dépêche chez les Jarrow, que c'était une femme, et non la fillette, qui avait agressé le petit. L'une des bonnes affirma en outre, de façon très déterminée, qu'elle avait regardé par la fenêtre à ce moment-là, et que c'était sa maîtresse qui avait poussé l'enfant dans la pièce d'eau. Elle ajouta, « Je ne crois pas qu'en ce moment la pauvre femme sache ce qu'elle fait. Vous savez, depuis le jour du décès de monsieur, elle est dans un état, ma foi, pas possible. » Dans le doute, un verdict d'accident fut néanmoins prononcé. Les enfants avaient été vus en train de jouer ensemble, de se pousser l'un l'autre, et on en resta là. Mais mon père, lorsqu'on le consulta à nouveau et à l'issue d'un entretien avec Madame Jarrow, assorti de certains tests, questionnaires et interrogations variées, acquit la certitude qu'elle était responsable de ce qui était arrivé. D'après lui, il était plus sage de préconiser une seconde cure psychiatrique à Madame Jarrow. Votre père était vraiment tout à fait sûr que c'était elle la responsable? Oui. Il y avait à l'époque une école thérapeutique très en vogue, en laquelle mon père avait foi. Le credo de cette école était qu'au bout d'un temps de cure suffisant, parfois très long, 1 an et plus, les gens pouvaient reprendre une existence quotidienne normale, et ce pour leur plus grand profit. Qu'ils pouvaient regagner leur domicile, et qu'avec toute l'attention requise, tant médicale que de la part de leur entourage, qui pouvait les observer vacants à leur existence normale, tout se passerait bien. Cette méthode, je me dois de le préciser, remporta de prime abord quelques succès, avant que ne survienne un certain nombre d'échecs désastreux. Des patients apparemment guéris rentraient chez eux, dans leur environnement habituel, retrouvaient famille, mari, père et mère, et rechutaient lentement, souvent jusqu'à l'irréparable. L'un de ces échecs, déception amère pour mon père, fut celui d'une femme qui retourna vivre sous le toit de l'amie avec laquelle elle vivait auparavant. Tout semblait se passer dans l'allégresse, jusqu'à ce qu'au bout de 5 ou 6 mois, elle appelle en urgence un médecin pour lui annoncer dès son arrivée « Vous allez sans doute le prendre mal et appeler la police, mais je n'ai vraiment pas pu agir autrement. Si vous aviez vu comme moi le diable dans les yeux de Hilda, vous en auriez tout de suite fait autant. J'y ai vu le diable et j'en ai tout de suite conclu qu'il fallait que je la tue. » L'ami de toute une vie était ligoté dans un fauteuil. Étranglée. Après son décès, la meurtrière lui avait crevé les 2 yeux. La pauvre folle mourut des années plus tard dans un établissement psychiatrique, sans avoir jamais manifesté le moindre remords, et en se contentant de déclarer à qui voulait l'entendre qu'elle n'avait fait là qu'obéir à l'impérieuse mission qui lui était impartie, et qui consistait à traquer le diable partout, en tout lieu et sous toutes ses formes. Poirot hocha tristement la tête. « Voilà, reprit le médecin, je considère, comme d'ailleurs le fit mon père à l'époque, que Dorothea Preston Gray souffrait, toute proportion gardée, d'une forme équivalente de déséquilibre mental, et qu'on ne pouvait la déclarer inoffensive qu'à condition de l'obliger à subir un long internement dans un établissement spécialisé. » Et là, après s'être vu prodiguer d'excellents soins, elle eut à nouveau l'air d'avoir complètement recouvré la santé. Elle quitta donc l'établissement pour s'en aller mener une vie quasi normale, en compagnie d'une infirmière tout à fait charmante, qui l'avait plus ou moins prise en charge, et qui, aux yeux des domestiques, passait pour la dame de compagnie. Madame Jarrow allait et venait, lia des amitiés, et un beau jour partit pour l'étranger. « Pour la Malaisie, » précisa Poirot. « Oui, je vois qu'on vous a correctement renseigné. » Elle partit pour la Malaisie, afin de s'établir chez sa sœur jumelle. Et là, un nouveau drame éclata. Oui, le fils d'un voisin fut victime d'une agression. On crut d'abord que c'était le fait d'une amas, et plus tard, je crois que les soupçons se portèrent sur l'un des domestiques indigènes. Mais là encore, il semble hors de doute que Madame Jarrow, sous le coup de quelque obscure pulsion, connue d'elle seule, avait perpétré cette agression. Aucune charge précise, et je crus comprendre, ne put être relevée contre elle. Je crois cependant que le général, je ne me rappelle plus son nom, Ravenscroft, suggéra Poirot. Oui, c'est cela. Le général Ravenscroft décida de prendre des dispositions pour la rapatrier en Angleterre et lui faire subir à nouveau un traitement médical. Ce que je vous dis là répond-il à vos attentes? Oui, déclara Poirot. J'avais déjà entendu tout ou partie de cela, mais uniquement, hélas, sous forme de ragot auquel je ne pouvais guère me fier. Maintenant, grâce à vous, mon siège est fait. Ce que je tiens cependant encore à vous demander, c'est la chose suivante. Il s'agissait d'une affaire concernant deux vraies jumelles. Qu'advint-il de l'autre? De Margaret Preston Gray, plus tard mariée au général Ravenscroft. Se peut-il qu'elle ait été atteinte de la même maladie? Il n'y eut pas le moindre suivi médical la concernant. Elle était parfaitement équilibrée. Mon père, que cela intéressait, lui rendit visite une fois ou deux, et s'entretint avec elle, car il lui était très souvent arrivé de rencontrer des cas de maladie ou de troubles mentaux pratiquement identiques chez de vrais jumeaux ayant commencé dans la vie par se vouer une grande affection. Ayant seulement commencé, dites-vous? Oui, dans certains cas, une forme d'animosité peut se développer entre jumeaux. Cela évolue à partir d'une forme d'amour protecteur très vif que se portent mutuellement les deux jumeaux, mais peut dégénérer en un sentiment plus proche de la haine pour peu qu'une quelconque tension déclenche le processus ou que la moindre crise affective engendre de l'animosité entre les deux. Je pense qu'en l'occurrence, ce fut peut-être le cas. Le général Ravenscroft, alors jeune sous-officier, s'était, me semble-t-il, profondément épris de Dorothea Preston Gray, qui était une très belle jeune fille. De fait, c'était la plus belle des deux, et elle était tombée éperdument amoureuse de lui en retour. Ils n'étaient cependant pas fiancés officiellement, et le général Ravenscroft ne tarda guère à reporter ses sentiments sur l'autre sœur, Margaret, ou Molly, comme on l'appelait, et la demanda en mariage. Ce nouvel amour étant réciproque, ils se marièrent dès que la carrière militaire du jeune homme le permit. Mon père a toujours été convaincu que la jumelle délaissée, Dolly, nourrit dès lors une jalousie morbide à l'égard de sa sœur et qu'elle continua d'aimer Alistair Ravenscroft et de lui garder rancœur de ce mariage. Elle surmonta pourtant tout cela, épousa un autre homme dans les plus brefs délais, mariage très heureux, semblait-il, et par la suite rendit fréquemment visite au Ravenscroft, non seulement lors de cette fameuse occasion en Malaisie, mais plus tard aussi, alors que le couple vivait dans un autre poste militaire à l'étranger, puis lorsqu'ils rentrèrent en Angleterre. Madame Jarrow était apparemment guérie, à ce moment-là, ne végétait plus dans un abattement morbide, et une infirmière tout à fait compétente vivait sous son toit, de même qu'un certain nombre de domestiques. Il me semble, en tout cas mon père me l'affirma toujours, que Lady Ravenscroft, Molly, demeurait très attachée à sa sœur. Elle se montrait très protectrice à son égard et l'aimait tendrement. Elle aurait voulu, je pense, la voir plus souvent, mais le général Ravenscroft n'y tenait pas trop. Il ne me semble pas impossible que Dolly, Madame Jarrow, légèrement déséquilibrée, ait continué à témoigner une véritable dévotion au général Ravenscroft, ce qu'à mon avis, ce dernier devait trouver gênant et difficile à supporter. Quand bien même sa femme croyait fermement que sa jumelle avait surmonté toute jalousie ou colère. J'ai cru comprendre que Madame Jarrow séjournait chez les Ravenscroft environ 3 semaines avant que ne survienne le drame de leur suicide. En effet, c'est parfaitement exact. C'est alors qu'elle-même trouva tragiquement la mort. Elle était sujette à de fréquentes crises de somnambulisme. Une nuit, elle sortit pendant son sommeil et eut un accident. Elle tomba d'un endroit de la falaise auquel menait un sentier apparemment abandonné. On la retrouva le lendemain, et je crois qu'elle mourut à l'hôpital sans avoir repris connaissance. Cela bouleversa sa sœur Molly. Mais j'aimerais préciser, car vous souhaitiez probablement me poser la question, qu'à mon avis, on ne peut considérer que cela eut une quelconque influence sur le suicide qui s'ensuivit, perpétré par un couple coulant des jours si heureux. Le chagrin que cause la mort d'une sœur ou d'une belle-sœur ne saurait pousser quiconque à se supprimer, et certainement pas à commettre un double suicide. À moins peut-être, enchaîna Hercule Poirot, que Margaret Ravenscroft n'ait été responsable du décès de sa sœur. « Seigneur !» s'écria le docteur Willoughby. « Vous ne sous-entendez quand même pas que... » « Que Margaret ait suivi sa sœur somnambule et qu'elle ait de sa main poussé Dorothea dans le vide du haut de la falaise ?»« Je refuse absolument d'envisager une éventualité de cet acabit !» décréta le médecin. « Avec les êtres humains, reprit Hercule Poirot, sait-on jamais ?»